17h30, vous écoutez Radio Campus Paris et vous retrouvez tout de suite petite consultation entre amis.
Petite consultation entre amis, l'émission santé complètement déjantée de Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris pour une émission spéciale Premier Secours dans laquelle nous disséquerons l'actualité et on parlera de la conduite à tenir face à une victime qui s'étouffe, une victime qui saigne, une victime qui perd connaissance. La piqûre de rappel sera consacrée au défibrillateur, à l'invention du défibrillateur. Le mot du médecin Médé et SOS, c'est le docteur Léo qui nous l'expliquera. Et puis, le pire du forum avec Willy93 qui nous pose la question « Que faut-il faire si ma petite sœur se coupe les doigts ?» en coupant des carottes. Alors, je ne sais pas si c'est une importance les carottes, mais en tout cas, à vos stéthoscopes, la consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
En direct sur le plateau de Radio Campus Paris, salut docteur Léo.
Salut docteur Loïc, un peu seul hein, cette
un
semaine.
Un peu, oulala, oui.
La brochette de spécialistes.
Ah, la brochette de spécialistes s'est réduite. Alors docteur Marion est à l'étranger, on ne sait même pas où elle est.
En vacances,
probablement. En vacances, etc. Docteur Julie, docteur Adrien sont toujours vivants. En tout cas, mais pas dans le studio.
Mais sans nouvelles.
Voilà, exactement. Sans nouvelles, mais bon, voilà, libre à nous de réanimer un peu cette émission. C'est la thématique de cette semaine d'ailleurs.
Exactement, ouais.
Et avant de rentrer dans cette grande thématique, on se fait un petit tour de l'actu santé.
Alors docteur Loïc, l'info de la semaine, c'est l'interdiction de l'e-cigarette dans les bars et restaurants.
Ah oui, effectivement docteur Léo, le Haut Conseil de la Santé Publique vient d'émettre un avis qui pourrait relancer le débat sur l'e-cigarette. L'instance souhaiterait interdire le vapotage dans les lieux publics, notamment dans les bars et les restaurants. Alors la cigarette électronique pourrait constituer une porte d'entrée dans le tabagisme et induire un risque de renormalisation de la consommation de tabac, relève l'instance consultative. Alors c'est pourquoi ce Haut Conseil préconise non seulement de maintenir les interdictions de vente et de publicité déjà prévues par la loi, mais de les étendre à tous les lieux affectés à un usage collectif via des textes d'application à paraître. Et même si les risques liés au vapotage passif sont nuls ou extrêmement limités pour les tiers dans les espaces fermés, l'instance va donc plus loin que ce qui était prévu dans le cadre de la loi santé. Alors la FIVAP, ça je ne connaissais pas, c'est la Fédération interprofessionnelle de la vape.
C'est sympa. Hein.
Ouais, sympa. Du coup, salut, tu vapes ? Ouais, je vape.
Tu fais partie de la FIVAP. Ouais,
ouais, je vais. Voilà. Donc, la FIVAP a donc réagi en dénonçant l'aveuglement coupable de ce Haut Conseil et estimé que sa recommandation sur l'interdiction de l'e-cigarette dans les lieux publics, comme pour le tabac, pourrait malencontreusement laisser penser que la vape est assimilable au tabac.
Ils ne font pas à moitié des choses.
Ah oui, du coup, la FIVAP, elle y va fort. Alors.
Aveuglement coupable.
Exactement.
Hein. On se retrouve dans 20 ans, la FIVAP. Hein.
Voilà. Et bien, alors, justement, pour trouver une réponse intermédiaire, le ministère a demandé aux cafetiers et aux restaurateurs ce qu'ils pensaient de la mise en place de zones vapoteurs, comme il existait autrefois des zones fumeurs. Et là, la réponse est assez claire. Il est hors de question de mettre en place de telles zones. Nous disons non au vapotage à l'intérieur des établissements. Dans 20 ans, on pourra nous accuser d'avoir laissé fumer dans les établissements. Donc au final, on n'est pas prêt de vapoter dans les bars et dans les restaurants. Enfin bon, rappelons quand même que vapoter, c'est mieux que de fumer. Mais si vous pouvez éviter les deux, c'est encore mieux.
Deuxième info, docteur Loïc, vous nous parlez d'une prouesse technique, la première implantation d'une rétine artificielle.
Et ouais, effectivement, du coup, la société française Pixum Vision, qui développe des systèmes de restauration de la vue, vient de franchir une nouvelle étape en réalisant avec succès la première implantation de sa nouvelle rétine artificielle Iris 2. Alors l'opération s'est déroulée en janvier sur un patient âgé de 58 ans, doté de 150 électrodes, soit 3 fois plus que le prototype Iris 1, le nouvel implant stimule artificiellement la rétine déficiente et lui redonne une vision des formes et des mouvements. Après des années dans le noir, le patient a déclaré percevoir des premiers signaux lumineux et va entamer une rééducation en accord avec le protocole clinique pour apprendre à interpréter ses perceptions, précise le professeur Michel Weber, qui est le chef de service d'ophtalmo du CHU de Nantes. Hein,
voilà, on salue.
Exactement, on dit salut, salut professeur
salut,
Weber.
Cher collègue.
Clairement, ça ne va pas remplacer la vision, mais c'est déjà, si je peux me permettre, une petite lumière au fond du tunnel.
Et je veux dire,
c'est beau, c'est sur ce clin d'œil justement qu'on termine nos actus. Et Et on revient dans notre thématique premier secours avec la bonne santé. C'est un peu de rester vivant, hein, j'ai envie de dire.
C'est pas mal. Hein.
C'est pas mal. Alors, une astuce santé-bonheur sur justement quelques gestes qu'il faut connaître absolument avec la victime. On va parler de la victime qui s'étouffe, de la victime qui saigne et puis de la victime qui perd connaissance. Alors justement, la victime qui s'étouffe, vous êtes en train de manger et d'un coup, votre voisin...
Mais que se passe-t-il? Les signes, voilà, intuitif tout ça. Hein.
Exactement. Et bah, du coup, porte ses mains à sa gorge, ne peut plus parler, ne peut plus crier. Et on en déduit que bah, il s'étouffe hein, et du coup, il n'y a plus aucun son et donc aucun air qui passe.
Très bien. Et du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ah bah, surtout, il va mourir si on fait rien. Hein. C'est un peu le...
On le regarde. On
voilà.
Prend, allez.
Alors là, on est face à l'obstruction, ce qu'on appelle l'obstruction totale des voies aériennes. Donc le principe, il est assez simple. Il y a deux choses à faire. Premièrement, on va faire des claques dans le dos. C'est-à-dire qu'on va mettre avec le plat de la main, on va taper entre les deux omoplates et assez fort. Hein, on dit que ce sont des claques sèches et vigoureuses. Il faut aussi penser à bien pencher la victime en avant. On tape jusqu'à 5 fois. Si ça ne marche pas...
Pas plus du coup, juste 5 fois.
Alors pour l'instant, allons-y par étapes, 5 fois. L'idée de ces claques, c'est tout simplement de provoquer un réflexe de toux, de décoller un peu le corps étranger qui est bloqué, et la personne en toussant va recracher le corps étranger. Alors je ne sais pas si vous savez, docteur Lem, enfin vous le savez sûrement, quand on tousse, eh bien l'air sort à quasiment 300 km/h. Oui. C'est pas mal ça quand même.
C'est pas mal, hein. c'est rapide, bonne vitesse.
Donc l'idée, c'est sur une obstruction totale, eh bien on essaye de provoquer ce réflexe de toux. Alors si ça ne marche pas, eh bien alors là, à la cinquième claque, ça n'a pas marché, eh bien on va faire cette fameuse manœuvre qu'on appelle la manœuvre de
Heimlich.
Heimlich. Alors j'ai découvert une petite chose. Hein. Heimlich est donc un médecin américain qui a inventé cette manœuvre. Eh bien, il était toujours vivant ce matin.
Eh bien, on le salue
plus
également.
Plus de 90 ans, un médecin américain qui a inventé cette technique-là. Alors la technique, c'est tout simplement des compressions abdominales. On va mettre son poing, 5 cm grosso modo. Hein, on appelle ça dans le creux de l'estomac, au-dessus du nombril. Et on va tirer vers soi et vers le haut dans un même mouvement. Et donc, pareil, hein, même chose. Alors, c'est le côté piston. Hein, c'est-à-dire qu'on va... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois que vous êtes...
Parce que nous, dans le studio, on a le visuel avec...
Ah, vous avez le visuel, exactement. Du coup, ça va comprimer. En fait, ça va faire remonter le diaphragme, qui est le muscle de la respiration. Et ça va comprimer l'air qui est dans les poumons. Donc là, c'est un peu comme si on appuyait un gros coup sur les poumons. Et ça comprime, en fait, l'air. Et ça fait comme un bouchon de champagne. Ça éjecte le corps étranger.
Pas mal. Et du coup, on fait ça tant que ça éjecte. Là, on ne reprend pas les claques.
Alors, en fait, on va faire ça. On va faire 5 compressions abdominales. Si malheureusement, ça ne marche toujours pas, on refait 5 claques dans le dos, 5 compressions abdominales jusqu'à ce qu'il y ait une évolution de la situation. Bon, généralement la personne va
Évolution,
tout à fait. Bah, en gros, hein, généralement ça marche, on est quasiment à 100% d'efficacité sur cette technique là si malheureusement la personne perd connaissance, du coup on sera face à une victime qui ne respire pas et qui sera inconsciente. Et donc, on verra, ce sera le traitement de la victime inconsciente qui ne respirera pas. On en parle tard avec le défibrillateur, justement.
Exactement, ouais.
Et le massage cardiaque, et c'est notamment ces premières compressions thoraciques qui feront ressortir le corps étranger.
Pour la victime qui saigne, docteur Loïc.
Alors, attendez, parce que j'ai pas tout à fait fini. Donc là, on parlait de la victime de l'obstruction totale. Mais par contre, si la personne peut vous parler, du genre, qu'est-ce qui se passe là? Ah, je crois que je suis en train de m'étouffer. Ah, j'avais un truc de travers.
Ça va pas bien.
Voilà. Donc, si la personne peut parler, elle peut tousser. Et donc, on ne fait rien, on laisse la personne tousser. Exactement, mais on va rien faire. D'ailleurs, pas de claque dans le dos, vous savez, comme au repas du votre tonton s'étouffe, dit vite, t'appuies dans le dos. En fait, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, c'est dangereux parce que ça pourrait déplacer le corps étranger et faire passer la personne d'une obstruction partielle à l'obstruction totale. En gros, vous venez de tuer votre oncle. Alors, si vous l'aimez pas.
Et l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Exactement. Ah, c'est beau quand vous parlez en dicton comme ça, docteur Léon. Donc, voilà, en tout cas, obstruction partielle, la personne, si elle peut vous parler, on la laisse tousser et c'est en toussant elle-même qu'elle crachera le corps étranger. Alors justement, parlons de la victime qui saigne.
Oui, j'attendais celle-là. Là.
Exactement. Alors bon, les signes, ils sont assez simples. Hein. En gros, on parle d'une hémorragie quand le sang, en fait, va imbiber un morceau de tissu en quelques secondes. Là, le principe, il est simple. Hein. On n'a pas énormément de sang. On a à peu près 5 litres de sang dans l'organisme. Donc, on se dit que quand on perd un dixième de ce volume-là, c'est-à-dire, on se dit, quand on commence à perdre une canette de coca de sang, ça commence à devenir...
Un peu sérieux, là. Il faut s'en préoccuper.
Un 2 millilitres de sang, ça commence à devenir inquiétant. Donc, l'idée, c'est simple. On va arrêter le saignement le plus rapidement possible. Pas de garrot, rien du tout. On comprime directement l'endroit qui saigne. Alors, pensez à intercaler une petite chose entre votre main et la plaie, un sac plastique, un morceau de tissu pour ne pas être en contact directement.
Et pourquoi ça? C'est pour les infections?
Exactement. Alors, transmission effectivement d'infections, ça peut être type le VIH, etc. Tout ça, qu'on rappelle, c'est parce que vous avez du sang sur les mains, il faut que vous ayez également une effraction cutanée qui est un contact sans sang. Et puis, alors évidemment, dès que si vous avez du sang sur les mains, lavez-vous les mains le plus rapidement possible, désinfectez également avec par exemple des produits à base de Javel. Ça, c'est le type d'Aquin, etc. Pour ne pas citer de marque.
Hein. Mais alors, revenons
à cette victime qui saigne. Elle saigne. Premier réflexe, j'appuie, donc j'arrête le saignement directement sur l'endroit qui saigne. Alors c'est la règle des 3 A, j'appuie, j'allonge et j'alerte. Alors j'allonge, hein, c'est assez simple, ne laissez pas une personne qui saigne assise ou debout parce que tout simplement, eh bien, le cerveau et le cœur ne sont pas au même niveau. Oui. J'allonge, eh bien, je mets le cerveau et le cœur au même niveau.
Le sang soit bien réparti.
Et j'égalise un peu comme ça la pression. Et la personne, bah, voilà, ça va limiter l'apparition d'une détresse vitale. D'accord. Et puis évidemment, j'alerte dans les secours. On alerte soit le 15, soit le 18, les pompiers.
15, le SAMU, 18, les pompiers.
Exactement. Ou le 112 hein, qui marche également, qui est le numéro européen d'urgence, qui marche dans toute la zone Europe si vous êtes en vacances, mais ça marche aussi bien que le 18. C'est d'ailleurs géré par le 18 dans la plupart des départements. Et puis, dernière situation.
La victime qui perd connaissance.
La victime qui perd connaissance, exactement. Alors, les causes sont... Il y a généralement trois types de causes. Hein. Ce sont des causes qui sont soit toxiques, soit traumatiques, ou médicales, un malaise, une maladie, peuvent provoquer une perte de connaissance.
Quels sont les risques ?
Alors, les risques, ils sont de deux ordres. D'une part, en fait, quand on est inconscient, tous les muscles sont relâchés, et la langue, qui est un muscle, eh bien, va tomber dans le fond de la gorge et va bloquer la respiration. Donc, l'objectif, il est simple, il est de tout faire pour que la personne continue de respirer. Et puis, il y a un autre mécanisme. C'est qu'il y a des liquides, on n'a plus le réflexe de protection des voies aériennes, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir déglutir. Et il y a des liquides, la salive, il y a des liquides également au niveau de l'estomac qui peuvent remonter et passer dans les voies respiratoires. Et c'est dramatique parce que c'est de l'acide dans les bronches. Et grosso modo,
ça fait pas du bien. Hein.
Ah, ça brûle un peu tout, notamment les alvéoles pulmonaires. Et même si la personne s'en sort, généralement, elle meurt au bout de 3 semaines en réanimation. Voilà pour la partie un peu joyeuse.
C'est bien, ouais, on est sur une émission très joyeuse.
Ah oui,
hein,
oui,
pour
alors,
l'instant.
Donc les signes, c'est simple. Hein. Une personne qui ne vous répond ni à une question simple, ni à un ordre simple, par exemple, Léo, est-ce que vous m'entendez ? Serrez-moi la main, ouvrez les yeux, eh bien elle est inconsciente. Tout de suite, on vérifie la respiration. Donc pour ça, on va basculer prudemment la tête en arrière. Et le geste à faire chez toutes les personnes qui sont inconscientes et qui sont sur le dos, c'est de les mettre sur le côté. C'est ce qu'on appelle la position latérale de sécurité. Mais
PLS,
exactement. Faire simple, si la personne n'a pas de traumatisme apparent, eh bien, on la met sur le côté. Une personne, je ne sais pas, vous êtes en soirée, la personne a un peu trop bu. Ça n'arrive jamais. Vous n'arrivez pas à la réveiller. L'urgence, c'est de la mettre sur le côté. Si on la laisse sur le dos, eh bien, il y a toutes les chances qu'elle s'arrête de respirer avant l'arrivée des secours. Et puis rappelons qu'il vaut mieux appeler les secours, appeler le 15, appeler le 18 pour prendre un avis. Vous avez bah, pareil, hein, un pote qui a un peu trop bu, vous n'arrivez pas à le réveiller.
Hein.
Bah, voilà, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Appelez le 15 ou le 18. Et surtout, ne laissez pas une victime inconsciente qui respire sur le dos. Ça, c'est vraiment essentiel
le conseil
à retenir.
Essentiel, voilà.
Exactement. Et formez-vous aux gestes de premier secours. C'est encore gratuit. Hein, aujourd'hui, on peut encore se former aux gestes de premier secours. Il y a des initiations au premier secours.
Et quel genre d'institution ?
Et bah, voilà, la Croix-Rouge, les pompiers, la protection civile. Rapprochez-vous, effectivement, il y a des formations qui sont gratuites et puis la formation PS1 qui est payante, qui est à peu près dans les 60 euros. Eh bien, vous permet de savoir réagir
pour sauver des vies.
Exactement, n'importe quelle situation. Voilà pour la petite astuce santé,
pas mal,
bonheur.
Hein. Petite, et puis, une petite formation.
Une petite formation,
comme ça, rapide,
exactement, voilà, mais des petits gestes essentiels. Et j'ai envie de dire, bah, si justement on continuait avec la piqûre de rappel, j'ai envie de dire surtout le défibrillateur.
Maintenant, la suite de nos informations.
Tout aujourd'hui, jeunesse de France.
Mes chers compatriotes,
nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Et on écoute Jeunesse de France, cette voix qui n'a rien à envier à celle de Malraux, docteur Léo. Vous allez nous parler du jour où est sorti, où a été inventé le défibrillateur.
Voilà.
C'est en 47 ?
C'est en 47, ouais, que le premier défibrillateur qui fonctionne, hein, qui est l'œuvre d'un chirurgien de Cleveland, USA, Claude Beck, donc en 47. Alors, pour autant, avant ça, on a eu le droit à quelques méthodes peu académiques de réanimation assez sommaires et, disons-le clairement, inefficaces, hein, de l'eau de vie dans les narines, du choc à l'eau froide, du fer rouge sur le thorax, enfin tout un tas de folklore comme ça, mais aussi quelques échecs dans l'élaboration du défibrillateur, quand même une petite prouesse technique en soi. Mais alors depuis que le défibrillateur existe et fonctionne, c'est devenu un instrument phare des soins d'urgence, mais aussi des tentatives de dernière chance dans beaucoup de films et de séries. D'ailleurs, certains d'entre vous se rappelleront peut-être de ça.
On dégage !
Assiste au lit.
Une ampoule d'atropine.
Quand la dernière adrée ?
Il y a 4 minutes.
Passez encore 7 mg. Vite, on dégage !
Moi, ça me fait presque pleurer, moi.
C'est dur, hein. Pourtant...
C'est fini, on a fait tout ce qu'on pouvait.
Ah, oui, on a fait tout ce qu'on pouvait.
La mort de Lucie, l'interne d'urgence.
Et oui,
et c'est voilà, je revois encore Lizzie Cordet essayer de la réanimer avec le défibrillateur. Moi, ça me fait... j'ai pleuré, moi, devant cet épisode.
Essayons d'aller sur un événement un peu plus heureux, donc l'usage réussi du défibrillateur. Et donc, c'est assez folklorique, hein. Il a été réalisé sur un cœur, directement à ciel ouvert. Alors, pour remettre un peu de contexte, Nous sommes en 1947. Le docteur Claude Beck sort de 2 heures d'intervention sur un enfant de 14 ans. Vers la fin de la suture, brusquement, le cœur de l'adolescent s'arrête. Le docteur Beck réouvre alors au scalpel l'incision de 35 cm qu'il venait de refermer, entoure le cœur de sa main et commence à le masser. Il demande ensuite qu'on réalise immédiatement un électrocardiogramme et qu'on lui anime son défibrillateur expérimental, ce qui prend quand même 35 minutes. Pendant ce temps, il continue de masser le cœur de l'adolescent. Le défibrillateur est finalement acheminé au docteur Beck et il place 2 électrodes sur le cœur. Il envoie 1500 volts. Rien ne se passe. 25 minutes de massage cardiaque sur thorax ouvert plus tard. Il réalise quand même à nouveau la même opération. Finalement, le cœur arrête ses spasmes mais reprend un rythme normal. L'adolescent s'en remettra parfaitement.
Première défibrillation réussie, 1947. Salut Beck.
Salut docteur Beck, ouais, à cœur ouvert du coup. Alors depuis, on a beaucoup perfectionné l'affaire, évidemment plus besoin de placer des électrodes à même le cœur. Il suffit juste de suivre quelques étapes que vous dicte la voie robotisée des fameux DAE pour défibrillateurs automatiques externes.
Alors comment ça marche justement concrètement ces défibrillateurs?
Déjà sur le cœur, alors c'est un muscle qui ne rigole pas trop, on l'a déjà dit, hein, il alimente en sang l'ensemble de l'organisme et en une minute c'est environ l'équivalent de 5 litres de sang, donc ce qu'on a qui sont pompés par le cœur, hein, donc c'est 5 litres de sang, c'est environ par quoi est composé un adulte normal, de taille normale, et c'est pour ça que, bon, je ne parle pas de vous, docteur Louis, qui est plutôt de petite taille.
C'est très drôle,
on rigole.
On se marre.
Ça n'arrête pas. Le rythme du cœur est fonction d'une impulsion électrique, en fait. C'est quand cette impulsion électrique fait n'importe quoi que l'arrêt cardiaque se produit. Alors, à l'électrocardiogramme, vous savez, cette machine qu'on voit aussi dans tous les films, dans toutes les salles d'opération, qui s'emballe avant que les médecins se mettent à crier « on est en train de le perdre », et bien ça donne ça.
Voilà, exactement, ça accélère. Et alors la littérature médicale, je pense que vous allez en parler, mais si on ouvrait le thorax de la victime, on compare ça à un tas de verres qui grouillent.
Le
cœur fait vraiment n'importe quoi, c'est un peu comme s'il convulsait.
Voilà, c'est ça, il se contracte, il ne se dilate plus correctement, il ne pompe plus, le corps n'est plus alimenté en sang. Alors suite à quoi, vous tombez dans les pommes.
Mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
Et oui, c'est l'atterrissage, parce que la première chose à faire si vous êtes témoin de ce genre de situation, alors c'est d'appeler le 15, on l'a dit, le SAMU, le 18, les pompiers, ou pourquoi pas le 112, et ensuite entre en scène le défibrillateur. Alors comment il fonctionne exactement? Alors c'est simple, il envoie une impulsion électrique qui arrête les contractions anarchiques du cœur. Ça le calme en quelque sorte, il ramène un peu l'harmonie. C'est un peu comme si votre PC plante et que vous décidez de le redémarrer un peu à la manière forte, quoi. Alors ensuite, une fois que vous avez fait le malin avec le défibrillateur, n'abandonnez pas et vous pouvez faire un petit massage cardiaque, hein. Grosso modo, le massage cardiaque, vous faites le boulot du cœur, cette feignasse qui s'était arrêtée. Donc vous appuyez de façon répétée sur le cœur, vous pompez un peu comme les Shadocks et vous envoyez le sang dans l'organisme, hein. Vous parsemez ça, tout ça d'un petit bouche à bouche qui permet d'alimenter non pas la victime mais le sang en oxygène. Et félicitations, dans la lignée du docteur Beck, vous venez de sauver la vie de quelqu'un.
C'est beau ce que vous me dites, vous me faites vibrer, docteur Léo. En tout cas, exactement, c'est ces fameuses 3 étapes, appeler, masser, défibriller, sur ce qu'on appelle la chaîne de survie sur l'arrêt cardiaque. Alors rappelons quand même quelques chiffres, hein. On perd 10% de chances de survie toutes les minutes en l'absence de gestes. Donc clairement, si vous êtes témoin, si vous êtes face à une personne qui ne respire pas, faites les premiers gestes dont vous a parlé Léo, faites le massage cardiaque, même un massage cardiaque mal fait sur une personne qui ne respire pas, sera toujours mieux que si vous ne faites rien. Donc vous placez vos mains au milieu de... du thorax, et puis vous appuyez, il faut enfoncer de 5 à 6 cm la cage thoracique, un rythme de 120 à la minute. Alors justement, 120 à la minute, ça tombe bien parce que c'est la musique de Staying Alive. Exactement, alors si vous placez sur ce rythme-là, et bah du coup vous allez réanimer une vie, c'est pas mal.
Bah, c'est pas mal, deux choses
deux
cool,
choses,
hein. Vous
exactement.
Écoutez Staying Alive et vous sauvez des
vies. Et vous sauvez une vie, vous êtes sur Radio Campus Paris, vous retrouvez évidemment toutes les infos sur les sites Croix-Rouge française, les pompiers, etc. Appelez, massez, défibrillez, sauvez des vies, appelez le 15. N'hésitez pas. Allez, on se retrouve juste après cette petite page de musique. Eh ben on espère en tout cas que vous êtes toujours en vie sur Radio Campus Paris et que vous apprenez des belles choses. Émission spéciale premier secours. Et avant, on se fait quand même un petit tour eh bien, de ce qui se passe au niveau des infos. Alors justement, on a des journées mondiales. Eh bien, on a deux journées mondiales qui arrivent la semaine prochaine.
Ouais, alors on a dimanche 13 mars, il me semble.
Exactement, c'est même demain. Hein, c'est la journée mondiale contre l'endométriose. Voilà, alors ça parle évidemment d'infertilité féminine qui font souffrir de nombreux couples. Et l'endométriose est une des causes possibles. Et d'où l'intérêt de cette journée.
Voilà, et alors du coup, plus précisément, c'est quoi l'endométriose, à part le fait que ce soit compliqué à prononcer.
C'est pénible de parler avec des non-initiés. Non, l'endométriose, c'est la présence de fragments d'endomètre, en grosso modo hein, c'est de la muqueuse utérine qui vient se greffer en dehors de l'utérus, alors sur des organes génitaux comme le corps de l'utérus, comme les ovaires, mais également des organes non génitaux comme le péritoine. Donc voilà, c'est extrêmement gênant, c'est une des causes d'infertilité. Et voilà, c'est le 13 mars, la journée mondiale, c'est demain.
Ouais, et le jour suivant du coup, le lundi 14.
Alors lundi 14, c'est pas une journée mais c'est une semaine. Voilà, c'est la plaisir. Semaine nationale de lutte contre le cancer. Donc il y a énormément d'associations qui luttent contre le cancer, on les salue. On a choisi, il y en a une qui est vraiment très très sérieuse, c'est la Ligue Nationale contre le Cancer. Non mais elle est très très connue.
Voilà.
Et c'est d'ailleurs elle qui est l'organisatrice de cette semaine qui se déroule du 14 au 22 mars 2016. Le site, allez voir sur le site de la Ligue, www.ligue-cancer.net, et vous retrouvez évidemment toutes les infos pour cet événement.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Retour dans cette thématique premier secours avec eh bien, les mots du médecin. Vous allez nous parler eh bien, de Mayday et de SOS,
ouais,
Docteur Léo.
Aujourd'hui, on vient sur des grands classiques de la communication d'urgence, donc Mayday et SOS. Alors grosso modo, les termes ont le même sens et surtout la même finalité. C'est un peu dire la même chose, mais dans des langages différents. Mayday est usé dans les communications radio-téléphoniques, tandis que SOS est un signal en morse. Alors commençons par le plus ancien, le SOS. Alors c'est un signal qui est composé de 3 points, puis de 3 traits, puis à nouveau de 3 points. Donc pour que ça soit plus clair, si on l'écoute en morse, ça nous donne ça.
Allô.
Allô, voilà.
Oui, allô, allô, allô. Hey, alors du coup, en morse, oui, ils vont quand même assez vite. Hein.
Ah ouais, ils rigolent pas. Hein, faut pas ouais. Mais ça, c'est d'urgence, en plus, il faut plutôt que ça évite et que ça soit simple. Hein, voilà. Voilà, donc ce code, il est retenu comme signal de détresse internationale lors de la convention de radiotélégraphie de Berlin en 1906. Et ce qui est intéressant, c'est que l'acronyme est apparu après usage en fait. Au départ, il s'agissait juste d'un signal de détresse sans signification particulière, mais simplement utilisé justement pour la facilité avec laquelle il était reconnaissable, même par un KIDA, mais même en cas d'interférence. Alors, ce n'est qu'ensuite qu'on en a fait un acronyme dont la signification n'est d'ailleurs pas vraiment fixée. SOS, ça peut revenir à dire « Save our souls », sauver nos âmes, « Save our ship », sauver notre bateau, ou encore « Send our succors », envoyer des secours. A noter qu'on peut aussi transmettre des SOS avec des signaux lumineux, c'est tout pareil, une série de 3 signaux brefs, une série de 3 signaux plus longs, et à nouveau une série de 3 signaux brefs.
Très bien, parfait. Alors Mayday, c'est l'autre, ça sert plutôt pour la navigation
Alors ça, non, ça sert pour tout en fait, c'est juste en communication orale, on va dire radio-télégraphique. Voilà, donc le Mayday, il est inventé sur demande des autorités britanniques par Frédéric Stanley Mockford en 1923, alors qu'il était chef officier radio dans un aéroport de Londres. Il lui avait été demandé de trouver un signal de détresse facilement compris par tous les pilotes et personnel au sol en cas d'urgence. Ce sera donc Mayday, l'équivalent parlé du SOS en mars, qui sera définitivement adopté en 1927. Alors pour la petite histoire, l'aéroport dans lequel l'officier Frédéric Mockford entretenait la majeure partie de ses vols avec l'aéroport du Bourget. Il a donc choisi un terme que les Français pouvaient également comprendre. Mayday, c'est m'aider.
Ah oui, voilà. Pas mal. Ah oui, du coup, c'est la version, ça marche également en français. M'aider,
m'aider-moi. Voilà. M'aider. Donc on ne pourra pas se moquer de votre accent anglais, vu que finalement, ça marche aussi en français. Et c'est la même logique qui prévaut pour les appels d'urgence un peu moins prioritaires. En cas de problème légèrement inférieur au Mayday, on dit pan-pan, qui est l'anglicisme de pan-pan, comme la panne mécanique. Voilà, du coup, avant de se songer de se retirer de l'Union Européenne, les Anglais mais donc encore à l'époque coopérer.
Merci, docteur Léo. Voilà, bah, c'est sympa en tout cas pour cette pour petite attaque.
J'espère qu'on a des auditeurs anglais. Hein,
ouais, exactement, j'ai l'impression que vous êtes un peu anglophobe.
Ouais, ouais. Non.
Non. Ah bah, alors, avant de se quitter, on se fait un petit tour justement forum internet et on a trouvé la perle de la semaine.
Quand je fais pipi, c'est plus jaune que d'habitude.
Et alors, question forum de Willy93 qui nous dit Que faut-il faire si jamais ma petite sœur se coupe le doigt en coupant des carottes? Alors, je sais pas pourquoi les carottes.
C'est important, peut-être, on ne sait pas.
Exactement. Alors, déjà, bon, bah, merci, hein, déjà, merci, Willy, pour ta question qui tombe à pic dans notre thématique. C'est comme un peu bien fait, les forums.
Ah, c'est pas mal, ouais.
Juste, hop, on parle des premiers secours et hop, une question forum sur les premiers secours.
Il y a beaucoup de questions en plus sur les forums. Hein,
exactement. Alors, justement, alors, parlons des carottes parce que moi, mon grand-père le disait toujours, les carottes, c'est bon pour la vue car on n'a jamais vu de lapin avec des lunettes. Alors, vous allez me dire, ça aucun.
Comique, hein, le grand-père.
Ouais, il était assez drôle. D'ailleurs, c'est pas complètement faux cette histoire, parce que dans les carottes, il y a des bêta-carotènes et de la vitamine A. Alors, c'est plutôt bon, hein, la vitamine A, en ce qui concerne l'adaptation de l'œil à l'obscurité. Bon, bah, rien à carottes. Voir, mais en tout cas, si elle confond les doigts et les carottes, bon, bah déjà, qu'elle mange un peu de carottes, ça ira déjà un peu mieux. Mais le doigt est coupé, revenons au doigt de Willette, la petite sœur de Willy, exactement, qui est coupé. Alors, que faut-il faire? Premièrement, ça va toi, on arrête le saignement. Hein.
Et oui.
Donc, la fameuse règle des
3.
Les 3, on appuie, on allonge, on alerte, ça sert à rien de s'occuper du petit doigt si la personne est morte. Dans une mare de sang. Donc d'abord s'occuper de la victime. Ensuite, deuxième étape, on va s'occuper du doigt. Alors là, attention, hein, on le met dans un linge propre, dans un sac plastique et ensuite dans la glace, dans de la glace. Pas de contact direct du bois, en tout cas de l'extrémité du doigt avec la glace, parce que ça brûle. Ouais, ça brûle les terminaisons nerveuses et du coup la réimplantation est compromise.
C'est compliqué, ouais.
Donc évidemment, vous appelez les secours, on le disait, le 15, le 18 ou le 112. Mm-hmm. Vous occupez d'abord de la victime et puis vous pouvez vous occuper dans un second temps du doigt coupé.
Chaîne de
priorité, exactement. La victime, j'appelle. Et un petit peu d'organisation. Hein. Faut un peu s'organiser quand on fait
malgré le stress.
Quand on fait du premier secours. Et méfiez-vous des chiens errants. Alors moi, un vieux prof de médecine qui disait, et surtout attention aux chiens. Le chien peut manger le bout de doigt. Alors voilà, moi j'ai jamais vu ça.
Faut
mais bon.
Le corrigue aussi.
Hein. Oui, c'est sympa.
Voilà. Ah, tombé, c'est avec les croquettes, il est tombé dedans.
Voilà. Je vais pas citer, c'était le docteur Razumanana qui nous disait ça. Voilà, salut. Je le salue. Hein.
Salut à toi.
Bon ben voilà. En tout cas, j'espère Willy 93 qu'on a répondu à ta question. Et je regarde l'heure, c'est déjà la fin de petites consultations entre amis. On se retrouve quand? On se retrouve la semaine prochaine.
On est que tous les deux, docteur
Loïc. Ça se passe exactement très très vite quand on est que tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Rappelons évidemment que vous pouvez nous retrouver sur notre site www.radiocampusparis.org. Allez voir sur notre site internet, sur notre page Facebook également. Likez, on est plus à plus de 120 personnes qui nous aiment.
Ça monte,
exact.
Ça monte.
Oh là, juste après nous, vous retrouvez l'œil à l'écoute. Vous retrouvez Tropical Club à 19h. Et puis lâchez pas l'écoute de Radio Campus Paris. On se retrouve la semaine prochaine.
Allez,
on vous embrasse. Hein. Salut, bisous, ciao.
Ciao. Smoke, lead, mirrors broke. Oh,